Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Comment parler de Dieu aujourd'hui à nos contemporains? Benoît XVI a posé la question ce mercredi à l'audience générale devant des milliers de fidèles. Le pape a par ailleurs demandé un meilleur accès aux thérapies anti-sida, particulièrement pour les enfants des pays en développement. Compte rendu dès le début de ce magazine. L'Église en première ligne dans le combat contre la souffrance, l'injustice et la pauvreté. Il en sera beaucoup question dans cette émission. Les Salésiens de Goma ont lancé un appel au monde entier pour qu'ils prennent conscience du drame qui se joue en République démocratique du Congo, tandis que le nonce apostolique en Syrie craint que ce conflit ne sombre dans l'oubli. L'Église également aux côtés des immigrés en France et des habitants des favelas au Brésil. Vous entendrez des témoignages. Benoît XVI a lancé ce mercredi un appel en faveur des malades du sida, en particulier des enfants. Le pape, qui s'exprimait à la fin de l'audience générale, a fait référence à la journée mondiale contre le sida célébrée le 1er décembre, une initiative des Nations Unies dont le but est d'attirer l'attention sur une maladie qui a fait des millions de morts, provoqué des souffrances humaines dramatiques qui prennent une tournure encore plus grave dans les régions les plus pauvres du monde où l'accès aux traitements efficaces est très difficile.
Il mio pensiero va al grande numero.
Mes pensées se tournent en particulier vers les nombreux enfants qui contractent le virus HIV par leur propre mère, alors qu'il existe des thérapies pour l'éviter. Benoît XVI encourage les nombreuses initiatives lancées dans le cadre de la mission ecclésiale pour enrayer ce fléau. Dans son livre « Entretien Lumière du Monde », le pape avait évoqué l'action importante de l'Église dans la lutte contre le sida. Beaucoup ignorent que plus de 25% des structures dans le monde sont catholiques, alors que l'Église se voit régulièrement reprocher son refus du préservatif comme moyen de protéger les personnes du sida. Le Saint-Siège a d'autre part multiplié les appels pour que l'industrie pharmaceutique baisse les prix des traitements anti-sida. Dans les pays riches, cette maladie est devenue chronique, grâce à des médicaments auxquels les habitants des pays pauvres n'ont pas accès. 70% des séropositifs dans le monde se trouvent en Afrique. Quelques 500 magistrats et employés de la Cour des comptes italienne ont participé à l'audience générale ce mercredi. Il y avait aussi un groupe de 315 pèlerins du Nigeria et 90 responsables laïcs venus de tous les diocèses de la République de Corée. Benoît XVI a consacré sa catéchèse à la manière de communiquer l'évangile aux hommes de notre temps, pour ouvrir la voie à sa vérité salvifique dans les cœurs souvent fermés de nos contemporains, dans leurs esprits distraits par les lueurs de la société. Nous pouvons, a-t-il dit, parler de Dieu parce que Dieu nous a parlé. Comme chaque semaine, le pape s'est exprimé en plusieurs langues, dont le français. On l'écoute.
Parler de Dieu, c'est communiquer avec joie, avec force et avec simplicité, par la parole et par la vie, ce qui est essentiel. Le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu incarné qui nous a tant aimé jusqu'à mourir et ressuscité pour nous, c'est Dieu que nous a donné l'Église pour que nous marchions ensemble et que par sa parole et les sacrements, nous renouvelions la cité des hommes afin qu'elle devienne la cité de Dieu. Puissiez-vous regarder les situations humaines avec les yeux mêmes de Dieu et laisser son amour renouveler votre vie et vos relations. Vous formulez alors des communautés chrétiennes exemptes d'individualisme et d'indifférence, capables de manifester à tous les hommes l'action transformante de la grâce de Dieu.
Benoît XVI, ce mercredi à l'audience générale. À Borin, en Belgique, les sanctuaires de la Vierge au cœur d'or vivent une année jubilaire depuis le 22 août dernier, à l'occasion du 80e anniversaire des apparitions de la Vierge. Ce jeudi 29 novembre, Mgr Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, y présidera une messe solennelle internationale, puis il donnera une conférence. Il s'agira du deuxième temps fort de ce jubilé, placé sous le thème « Vivre sa foi au rythme de l'Église ». Du 29 novembre 1932 au 3 janvier janvier 1933, 5 enfants ont vu apparaître la Vierge Marie à Beaurain à 33 reprises. La dernière survivante, Gilberte Degimbre, participera aux célébrations présidées par Mgr Léonard. Elle priera notamment le chapelet de 18h30. Les enfants et les jeunes de l'école des sœurs et des frères de Beaurain seront spécialement associés à la fête. Les enfants feront un flash mob le matin, les jeunes animeront la procession le soir. L'Église catholique a toujours été en première ligne dans l'accueil des immigrés partout dans le monde, à commencer par l'Europe. Une quarantaine d'évêques et délégués nationaux chargés de la pastorale des migrants sont actuellement réunis à Rome pendant 3 jours, du 27 au 29 novembre, pour débattre de cette action essentielle dans la vie de l'Église. La conférence est organisée par le Conseil des conférences épiscopales d'Europe avec le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Parmi les participants, le père Bernard Fontaine, directeur du Service national de la pastorale des migrants, il évoque les différents types et vagues d'immigration en France.
Il y a les vieilles migrations, italiennes, portugaises, espagnoles, voire polonaises. Et ces migrations venaient alors qu'il y avait sûrement en France beaucoup de travail et une demande économique importante. Il y a actuellement de nouvelles migrations de toujours de ces pays, mais qui sont dans un tout autre contexte. Ils partent de pays en crise et ils arrivent aussi dans un pays en crise et c'est sûrement très difficile. Diversité aussi à cause des zones géographiques d'où viennent ces migrants. Il y a ces migrations qui viennent de l'intérieur de l'Europe, mais ensuite il y a pour nous les migrations qui viennent du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Turquie, et maintenant du Sud-Sahara, le Congo, le Cameroun et bien d'autres pays pour l'Afrique noire. Et de plus en plus maintenant, une migration asiatique qui vient autant du Vietnam que des Philippines et de Chine. Alors cela fait une très grande diversité de réalités migratoires. Dans ces réalités migratoires, il semble que se dégage une majorité de femmes. Ça correspond à une demande dans la société française, puisqu'il y a une demande pour l'aide aux personnes et tout ça. Et c'est beaucoup de femmes qui sont sollicitées, de jeunes femmes qui viennent. Alors on mesure ce que ça veut dire que les mamans quittent leur pays, laissent leurs enfants à d'autres générations pour les éduquer, elles vivant ici. Et en ce qui concerne les jeunes, c'est souvent des jeunes diplômés, bien formés, qui arrivent dans notre pays pour assumer des tâches de recherche et qui a fait problème puisqu'on avait supprimé cette possibilité du salariat pour un certain nombre d'étudiants étrangers. Ça a été remis maintenant par ce nouveau gouvernement. Donc il y a des jeunes migrants bien formés qui arrivent dans notre pays.
Migration, immigration, ce sont des mots qui commencent à faire peur aujourd'hui en Occident. Quelle parole positive l'Église peut apporter sur ce sujet?
Pour l'opinion publique en France, toutes ces dernières années, les migrants ont été stigmatisés. Alors pour l'Église de France, on a fait une brochure là, à la rencontre du frère venu d'ailleurs, pour que vraiment ces peurs soient nommées et en même temps réfléchies pour qu'on puisse avoir une autre attitude vis-à-vis des migrants.
Le père Bernard Fontaine, interrogé par Manuela à Fidji. À Goma, la capitale de la riche province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, le centre Don Bosco, géré par les Salésiens, a accueilli ces jours-ci plus de 10 000 déplacés. Avec le concours de 80 volontaires, ils s'efforcent de leur garantir un accueil digne. Parmi les 6 000 enfants, 140 sont arrivés seuls. 316 sont gravement sous-alimentés. Au cours de la dernière semaine, il y a eu 8 naissances, mais un bébé de 4 mois a succombé. Le centre prêtait déjà secours à 3300 jeunes et enfants vulnérables. Selon Kinshasa, les rebelles du M23 se livrent à des pillages à Goma. Des dizaines de camions destinés à la construction des routes et à l'entretien des voiries ont été emportés vers le Rwanda avec le butin des pillages. Pour l'heure, la situation reste confuse et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont toujours pris en étau dans les conflits. La semaine dernière, les présidents des conférences épiscopales et Caritas d'Afrique avaient dénoncé une offense à la dignité humaine et appelé à l'arrêt de la guerre et au respect territorial du pays. Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis, était à Kinshasa, aux côtés des évêques, lors de la publication de ce texte. Il s'attarde sur ses grandes lignes, sur les causes des violences et pointe du doigt les commanditaires du conflit. Témoignage.
Les évêques du Congo et les autres dans la région disent que cette nouvelle milice ne tombe pas du ciel, qu'il y a des intérêts derrière. Ils ont très spécifiquement dénoncé la volonté d'accéder à tout prix aux ressources naturelles de l'Est du Congo. En particulier, on trouve beaucoup de tantalite qui sert à fabriquer nos téléphones et nos ordinateurs portables. Donc, ils disent clairement que la source principale de ce conflit est l'accès aux minerais. Maintenant, il y a une deuxième raison qui est ancienne et qui est celle de la volonté du Rwanda d'étendre son espace. Ils ne peuvent peut-être pas annexer une partie du Congo, donc occuper une partie du Congo, créer un autre État dans cette région et puis peut-être un jour créer une fédération ou bien annexer tout simplement. Mais les Nations Unies, pour la première fois, ont reconnu, à travers des rapports d'experts, l'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans la mise en place et le développement du M23. Et les évêques demandent clairement à ces pays d'arrêter et de se respecter l'intégrité territoriale du Congo.
Et pourtant, la semaine dernière, aux côtés du président congolais, les présidents ougandais et rwandais ont appelé à la fin de l'offensive. C'est un discours de façade.
Oui, c'était considéré comme une grosse blague à Kinshasa. Le président Kabila a effectivement rencontré à Kampala les deux présidents rwandais et ougandais, mais plus personne ne croit aux annonces et aux décisions qui peuvent être prises par ces deux présidents. Donc ça contribue à jeter de la poudre aux yeux, c'est tout.
Comment la population réagit-elle face à ce conflit ? Il semblerait qu'une partie de la population soutienne le M23.
Oui, ce sont les anciens RCD Goma. C'est, l'armée congolaise dans cette région est composée en partie d'anciens miliciens proches du M23 qui ont refusé d'être complètement mixés, comme disent les Congolais, à l'armée nationale et d'être envoyés dans d'autres régions du pays. Donc ils ont voulu rester chez eux, là où ils avaient exercé des exactions contre les populations civiles. Comment voulez-vous que cette armée-là, qui est cousine du M23, empêche le M23 de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire d'essayer de conquérir un espace ? Le projet du M23 n'est pas très clair, derrière lui du Rwanda. Est-ce qu'ils veulent, comme ils le disent, aller jusqu'à Kinshasa pour renverser Kabila et installer Mekwa ? Ou bien simplement ils veulent occuper un espace qui serait les deux Kivu et peut-être le Maniema au nord et s'installer définitivement là.
Ils l'ont dit, ils veulent le départ du président Kabila.
Oui, mais tout ça c'est une mascarade. Et dans l'appel des évêques d'Afrique, il est clairement dit non pas seulement les miliciens, les acteurs du M23, mais leurs commanditaires, ceux qui planifient, doivent être visés et doivent arrêter. C'est clairement le pouvoir rwandais et le pouvoir ougandais. Et dans l'histoire, il faut se souvenir que le président rwandais a été à l'état-major de l'armée ougandaise pendant de nombreuses années et que l'Ouganda l'a aidé à rentrer au Rwanda à partir de 90 et à achever la conquête du pouvoir en 94. Donc ce sont des frères qui s'entraident. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tous ces minerais riches. Voilà, donc la tentation est très forte, ce n'est pas nouveau. Ils exploitent déjà ces minerais. Tout ce qui quitte le Kivu passe par le Rwanda ou l'Ouganda pour sortir. Et on voit dans les budgets du Rwanda ou de l'Ouganda les ressources que représentent ces matières premières qui ne sont pas les leurs.
On a du mal à voir une issue à cette crise. Quelle pourrait être la solution ? Y a-t-il un pays ou plusieurs pays qui pourraient véritablement jouer un rôle de médiateur ?
Je ne vois pas très bien. Le Rwanda vient de rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 ans. La solution, je pense, peut venir en partie du secteur des matières premières. Si les compagnies du secteur extractif disent au gouvernement rwandais, au gouvernement ougandais, qu'elles sont prêtes à collaborer encore plus, mais dans un cadre légal et pas dans un cadre illégal, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'elles ont un levier important entre les mains. Pour ce qui est de pays qui pourraient influencer le Rwanda et l'Ouganda, je pense que dans le monde anglo-saxon, les Américains, les Anglais en particulier, qui ont soutenu les yeux fermés les Rwandais après le génocide parce que l'Occident s'est senti coupable d'avoir laissé faire ce génocide, s'ils ouvraient les yeux et qu'ils acceptaient de regarder la vérité et la réalité, ils pourraient sans doute influencer les présidents rwandais ou ougandais.
Michel Roy, secrétaire général de Caritas International, y s'interrogeait par Hélène Destombes. En Syrie, il n'y a pas de printemps arabe. C'est le nonce apostolique à Damas qui l'affirme. Monseigneur Mario Zenari décrit une situation de plus en plus chaotique. Trop de facteurs extérieurs se sont infiltrés dans cette guerre. À la douleur causée par les bombardements s'ajoutent les représailles menées par les groupes politiques et religieux. Des centaines d'enlèvements favorisés par le climat d'instabilité décime les familles. Dans une interview à l'agence de presse Asia News, le nonce affirme que la population n'a plus de voix et que la situation humanitaire est un enfer. Plusieurs de ses employés vivent désormais dans l'annonciature. Les paroisses sont transformées en dortoirs. Les couvents accueillent des personnes dont les maisons ont été détruites. Cependant, sans aide extérieure et l'hypothèse d'un cessez-le-feu, tous ces efforts risquent de n'être qu'une petite goutte d'eau dans la mer. Monseigneur Zenari exhorte les chrétiens à prier pour la Syrie. En revanche, les chrétiens palestiniens sont confiants. Ils soutiennent la demande de Mahmoud Abbas à l'ONU en faveur de l'admission de l'État palestinien comme observateur non membre. C'est le vicaire patriarcal pour la Jordanie du patriarcat latin de Jérusalem qui l'a affirmé à l'agence Vatican Fides. Selon Mgr Maroun Laham, les églises de Terre Sainte appuient de manière unanime l'action de l'autorité nationale palestinienne. Elles estiment que la reconnaissance de l'État palestinien serait une bonne chose. Si la demande est accueillie, le curé de Ramallah célébrera dimanche une messe d'action de grâce à laquelle il invitera les représentants de l'autorité palestinienne. L'Union européenne de radiodiffusion organise le jeudi 29 novembre une journée d'émission en Eurovision consacrée au thème de la pauvreté. Why Poverty, c'est le nom de cette initiative à laquelle Radio Vatican s'est associé. Depuis quelques jours, nous vous proposons à cette occasion une série de reportages sur les luttes contre la précarité à travers le monde. Des combats auxquels s'associe bien sûr l'Église catholique. Alors aujourd'hui, nous allons partir pour le Brésil. S'immerger dans une favela et venir en aide aux familles qui y habitent, pendant 2 ans, Béatrice et Loïc ont réalisé cette mission pas banale. Grâce à la Fidesco, une organisation catholique de solidarité internationale, ils ont passé 2 belles années dans la favela des Alagados, à Salvador de Bahia, au Brésil. Loïc était responsable du soutien scolaire, Béatrice, de son côté, donnait des cours aux enfants du quartier et aidait les jeunes filles enceintes. Aujourd'hui, de retour en France, le couple n'oubliera jamais cette expérience, témoignage.
On est parti vraiment sur une mission de service où on voulait servir les autres. Et au contact des populations, notamment des paroissiens, on a vraiment été bouleversés par ce témoignage de catholiques au sein de la favela. Et notre mission a pris un autre sens. En fait, on s'est vraiment retrouvé sur une mission de foi où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas porter toutes les misères du monde et qu'on ne pouvait pas sauver tout le monde. Parfois, on n'avait pas de réponse à apporter aux gens qui nous demandaient de l'aide, qui étaient dans une situation humaine dramatique. Et ce changement de cap, le fait de passer de cette mission de service à cette mission de foi, a vraiment été très important pour nous et nous a aidés à servir mieux les personnes pour lesquelles on était là.
Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre pour vous, Français, dans cette favela ?
On s'est rendu compte que le pire n'était pas la pauvreté matérielle dans laquelle ils vivaient, même si elle était bien présente. Hein. Ils vivaient dans des maisons de tôle, de bois, vraiment sales, il y avait des rats, etc. Pas toujours de quoi manger. Le pire, la plus grande misère qui nous a marqué, c'est vraiment la misère humaine, sociale. Surtout sur le plan familial, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de modèle familial. On a très peu, à part en dehors des catholiques, on a très peu rencontré de maisons où il y avait un père, une mère et des enfants. La plupart du temps, la mère vit avec ses enfants et il n'y a pas de père. Chaque enfant est d'un père différent et elle se débrouille toute seule. Et voilà, et les hommes vivent séparément, vivent du trafic, etc.
C'était assez frappant de voir les enfants qui avaient père et mère et 100 fois plus structurés que ceux qui n'avaient que leur mère avec leurs frères et sœurs de pères différents. C'était hallucinant comme c'était frappant.
Maintenant que vous êtes de retour en France, quel est votre souvenir le plus marquant ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 2 ans ?
Une expérience qui nous a beaucoup marqué, c'est un ami qui un dimanche allait acheter son poulet pour sa famille en vélo. Et puis sur le chemin, il y a 2 autres personnes en voiture qui commencent à se discuter pour une histoire de circulation. Sauf qu'il y en a un qui sort son arme et qui pour tirer sur l'autre. Et à ce moment-là, Arnaldo passe en vélo entre les 2 voitures, il n'avait pas vu. Et du coup, c'est lui qui a pris la balle dans la jambe. Donc heureusement, il est pas décédé, mais il est resté très très longtemps alité. Quand on a appris ça, on a été bouleversés, voire même révoltés par cette violence vraiment gratuite. Rapidement, quand il est rentré de l'hôpital, on est allé lui rendre visite. Et lui, à ce moment-là, il dit « Non, mais avant toute chose, J'aimerais d'abord qu'on prie pour mon agresseur. Je voulais prier pour son agresseur parce qu'il disait qu'il le connaissait. Il souhaitait donc prier pour lui parce qu'il n'avait pas la chance de connaître Dieu. Et aussi, il voulait prier pour rendre grâce à Dieu, de l'avoir mis, lui, à cet endroit-là et que ce ne soit pas un enfant qui ait pris la balle perdue parce que l'enfant serait décédé.
Des propos recueillis par Justine Vassonne. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.